On passe à Philippe Chalmin.
J'en arriverai pas exactement aux mêmes conclusions. Alors d'abord, mes félicitations, et c'est tout à fait sympathique de voir de jeunes mineurs, moi qui n'en suis pas un, s'intéresser à des problèmes sur lesquels on ne voit plus beaucoup d'agros, entre nous d'ailleurs, et encore moins d'épiciers comme moi. Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié la lecture de leur travail, même si, alors, sur les plans très techniques, par moment, il y a quand même quelques petites erreurs, et notamment un graphique que je ne peux pas vous laisser passer, parce que ça, c'est vraiment problématique. C'est quand vous me mettez sur le même graphique le prix du blé, du maïs et du riz à Chicago, la cotation mondiale du riz, ce n'est pas Chicago, c'est Bangkok, et le prix de Chicago n'est absolument pas représentatif. Je dirais même que c'est totalement pire, puisque le riz à Bangkok est monté à 1300 dollars la tonne au pire d'avril 2008. Et ce que je dis là est important, puisque un des sujets que vous traitez dans votre livre, que vous n'avez pas trop traité là, qui était celui du rôle de la spéculation, justement, il est assez intéressant dans la mesure où le blé et le maïs sont cotés sur ce qu'on appelle des marchés à terme, sur lesquels vous avez ces horribles personnages que nous détestons bien entendu, qui sont des spéculateurs. Sur le riz, il n'y a pas de marché à terme, il n'y a pas de spéculateurs. Les flambées ont été aussi fortes. Vous en concluez bien entendu ce que vous voulez. Alors, j'arrive grossièrement aux mêmes conclusions que vous, et j'ai trouvé votre travail tout à fait rafraîchissant, parce qu'il pose bien le vrai problème, et Bruno Parmentier vient de le montrer, le problème de fond est un problème de politiques agricoles. Et au fond, il se trouve qu'il y a eu des émeutes de la faim. Il se trouve que ces émeutes de la faim ont été provoquées. Alors là, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Ont quand même, qu'on le veuille ou non, été provoquées par des déséquilibres offre-demande. Et ces équilibres offre-demande, bien entendu, ont porté sur des agrégats à l'échelle mondiale qui nous dépassent totalement. Mais c'est vrai, et vous l'avez souligné, sur les 7 premières campagnes céréalières du XXIe siècle, 6 sont déficitaires. Alors, évidemment, ce sont des déficits de quelques dizaines de millions de tonnes sur des productions mondiales de céréales, c'est tout compris, c'est 2,2 milliards de tonnes. Donc, faut pas non plus chercher une précision statistique, on ne la trouvera pas. Et d'autre part, il faut bien se dire que les marchés ont une fonction d'anticipation. Et c'est là où la perception du déséquilibre offre-demande a provoqué la flambée des prix. En réalité, vous avez totalement raison, on n'a pratiquement pas physiquement manqué de produits agricoles. Il y avait largement de quoi nourrir le monde. Simplement, les émeutes de la faim, et Bruno Parmentier a dit la même chose, les émeutes de la faim, elles ont touché les endroits où ça faisait mal. Et ça faisait mal où ? Bien entendu, dans les villes, les gens qui mouraient de faim dans les campagnes, ils ont continué tranquillement à mourir de faim. J'attire simplement votre attention sur une chose, d'ailleurs, la faim, c'est pas exactement la faim, c'est la malnutrition dont nous parlons. Le milliard de gens ne souffrent pas de la faim. Faites bien la différence entre sous-nutrition et malnutrition. La malnutrition, c'est la pauvreté alimentaire. Il y a 1 milliard de gens qui souffrent de pauvreté alimentaire. Et je dis bien de pauvreté. Donc la faim, c'est le degré zéro du mal développement. Et nous ne sommes plus dans une problématique de production agricole, nous sommes dans une problématique de développement économique. Ça, il faut profondément le rappeler. Et donc, vous avez à la limite deux problèmes qui se posent et qu'on a mixé en même temps en 2008, mais c'était pratique de le faire. D'un côté, on avait un problème quantitatif. Le monde sera-t-il capable de nourrir 10 milliards d'hommes à l'horizon 2070 ? Première question. Et donc, sera-t-il capable, si l'on imagine que l'on aura éradiqué à ce moment-là le problème de la pauvreté, sera-t-il capable de nourrir correctement 10 milliards d'êtres humains? Sur la base, je ne suis même pas sûr à 3000 calories, on peut s'en sortir très bien à 2800 calories, avec une centaine de grammes de protéines dont la moitié est d'origine animale. Bon équilibre, nous sommes tous, je vous le signale, des mal nourris par excès, puisque vous avez mangé de la viande à midi et vous allez en remanger ce soir. Donc, a priori, vous êtes plutôt mal nourri par excès, sans même tomber dans l'obésité, hein. Mais la malnutrition par excès, on peut la trouver relativement facilement. Donc, quelque part, premier problème qui s'est posé, prise de conscience à ce moment-là de la part des marchés internationaux, de la part de nombre d'acteurs, dans un contexte général qui n'était pas seulement celui de l'agriculture, qui était aussi celui des ressources naturelles. Nous allons manquer de pétrole, nous allons manquer d'énergie, nous allons manquer de terre, nous allons manquer de biens agricoles. Donc ça, c'est la première question. Et effectivement, quelque part, elle a été sous-jacente à nombre de débats, et à quelques-uns de nos bouquins d'ailleurs, publiés en 2008 et 2009. Et puis, une deuxième question, qui était, même en disposant, puisqu'actuellement, on a de quoi nourrir les 6,3 milliards, ou 6,7, je ne sais plus où on en est, 6,7 milliards d'êtres humains que nous sommes, il y a largement de quoi les nourrir. Or, on n'y arrive pas. Ça veut donc dire qu'il y a des problèmes, qui sont des problèmes de développement économique, et que dans bien des pays, la base du développement économique, mais ça, on l'avait totalement oublié, c'est l'agriculture. Cette merveilleuse déclaration de Bob Zoellick, patron de la Banque mondiale, à Rome, grand moment où les crocodiles ont lâché quelques larmes et autres sanglots, il faut remettre l'agriculture au cœur des stratégies de développement économique. S'il faut les remettre, c'est qu'effectivement, on les avait totalement enlevés, parce que on s'était dit, alors il y a des modèles de pays qui ont pu se développer en écrasant leur agriculture. Le modèle de référence, c'est le Royaume-Uni à la fin du 18e au 19e. Simplement, c'était un cas relativement exceptionnel. Alors, on a vraiment eu, et c'est pour ça que je ne vous suis pas totalement quand vous dites la logique offre-demande, elle ne veut rien dire. Heureusement! Heureusement qu'on a eu la logique offre-demande. Heureusement que les marchés ont flambé. Autrement, ils continuent à ne pas s'en occuper. D'ailleurs, vous avez bien vu, le sommet de Rome en juin 2008, il y avait toutes les caméras, tous les grands de la planète étaient là, ils ont battu leur coulpe, ils ont dit, il faut absolument, on va aider, oui, oui, on va aider, etc. Alors là, il y a un petit problème. Vous êtes jeune, donc vous avez beaucoup d'idéalisme, et c'est très beau, vous croyez aux Nations Unies. La FAO fait partie du problème. Et objectivement, aucun homme sain ne va filer un maravédis à la FAO. Au programme alimentaire mondial, vous avez eu raison de le souligner, c'est probablement une des agences des Nations Unies les plus efficientes, mais elle, son métier, c'est de régler des problèmes d'urgence. La FAO, si la FAO servait à quelque chose, ça fait 50 ans qu'elle existe, on s'en serait rendu compte. J'avoue pour avoir participé au dernier sommet alimentaire, mais alors ils appellent ça le High Level Expert Meeting qui le précédait, j'ai pu constater 20 ans plus tard que les couloirs de la FAO étaient toujours aussi poussiéreux, qu'il y avait les mêmes fonctionnaires d'ailleurs qui continuaient à faire de jolies notes et que ça continuait à ne servir à rien et que même en termes d'observation des marchés, ils étaient plutôt mauvais. Mais donc, malgré tout, heureusement qu'il y a eu cette flambée des cours. Flambée des cours, alors vous ne le souvenez peut-être pas pour ceux qui liront le livre, il y avait quand même d'autres raisons objectives, notamment El Niño, ça vous n'avez pas parlé. Il faut bien se rendre compte que vous raisonnez d'accord sur 2,2 milliards de tonnes de céréales. En réalité, vous raisonnez sur 200 millions de tonnes d'échanges mondiaux. Et à l'intérieur de ça, vous raisonnez en réalité sur les capacités à l'exportation de 4 ou 5 pays. Lorsque, en 2006, vous avez une sécheresse en Australie, que vous passez de 25 à 10 millions de tonnes, c'est 15 millions de tonnes de moins sur 100 millions de tonnes d'exportation de blé. Et quand, l'année suivante, vous avez encore une sécheresse en Australie, et qu'en plus, vous avez un embargo à l'exportation ukrainien, parce que les Ukrainiens gardent le blé pour eux, parce qu'ils n'ont pas envie d'en importer du grand voisin russe, eh bien, ce sont ces éléments qui ont provoqué la flambée des prix du blé, et que sur le riz, vous avez certes une production de 400 millions de tonnes, mais les échanges mondiaux, ils sont de 25 millions de tonnes. Et c'est sur ces 25 millions de tonnes que porte le prix mondial, en réalité. Enfin, j'arrondis les chiffres, il faudrait que je les reprenne. Mais c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. Et quelque part, heureusement que nous avons eu cette flambée des prix, j'en viens parfois, alors là, c'est l'éloge total du libéralisme, et je rappelle qu'au fond, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, les denrées alimentaires doivent être traitées comme des produits, comme les autres. Vous pouvez imaginer une sorte d'exception morale dans laquelle vous diriez « Mais c'est scandaleux, le blé ne peut pas être l'objet de viles spéculations parce que le blé, ça nourrit les hommes, le blé, c'est un symbole religieux, etc. » Je ne suis pas d'accord. Le marché, il fait passer un message. Que nous ont dit les marchés en 2008 ? Ils nous ont dit « Les enfants, à force de... liquidez vos politiques agricoles, à force de ne pas vous préoccuper de l'avenir, à force de croire sur le long terme à une sorte de surabondance agricole généralisée, vous allez dans le mur. » Et les marchés qui sont régis par le court terme nous ont envoyé un message de sagesse pour le long terme. Donc ça, c'est le premier commentaire que je voudrais faire, puis on pourra revenir un petit peu là-dessus si vous le voulez, débat sur les biocarburants, autre chose de ce genre. Là où par contre, j'adhère totalement. C'est vrai que parmi les solutions, vous avez raison dans votre livre de liquider assez rapidement ce que continue d'ailleurs à véhiculer la FAO qui dit « on va être capable de multiplier par deux les surfaces cultivables de la planète ». Bullshit. Oublions tout cela. Il faut qu'on raisonne à surface agricole utile constante, avec des problèmes d'eau, avec des problèmes d'appauvrissement des sols, avec peut-être un certain nombre de révolutions technologiques devant nous. Je vous rappelle que nous sommes dans le seul pays qui, un petit peu comme on brûlait et comme les ouvriers de Lyon détruisaient les machines de Jacquard, nous interdisons les OGM. Je siège au Haut Conseil des biotechnologies, j'en sais quelque chose, et c'est pas un scoop, mais nous allons probablement interdire le Monsanto 810, qui est simplement cultivé sur 60 ou 70 millions d'hectares dans le monde, et c'est bien connu, il est totalement nocif pour la planète. Bon, simplement, il augmente les rendements, mais ça, c'est une autre chose. Donc, même sans tenir compte des OGM, la grande potentialité, me semble-t-il, elle est, vous avez raison de le dire, dans les pays qui ont faim eux-mêmes. Il y avait un très beau livre écrit par Bertrand Hervieux qui s'appelle « Du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes ». C'est vraiment un livre, un titre de livre que j'aime à citer, tant ce devrait être la base des politiques agricoles. Alors, simplement, mettre en place des politiques agricoles, j'irai plus loin, et je vous ai trouvé presque un pas assez ambitieux. C'est mignon le microcrédit, d'accord, mais il faut mieux. Et le mieux, alors quand j'ai sorti ça à Rome il y a un mois, j'ai entendu des remous dans la salle lorsque j'ai dit ce qu'il faudrait au fond, c'est offrir à chacun des pays. Je dis surtout des pays, parce que les entités régionales, ça n'existe pas forcément, mais à chacun des pays, au Burkina, au Mali, mais aussi au Bangladesh, l'Inde le fait en réalité, une politique agricole commune modèle 58. Alors qu'est-ce que c'était que la politique agricole commune modèle 58 ? C'était une garantie de prix aux producteurs, sans limitation de quantité, appuyée sur un prix d'intervention qui était respecté, puisqu'il y avait des structures d'intervention, des silos, etc. Donc l'agriculteur, il n'avait pas à se poser de questions, il avait une carotte qui était le prix, et son intérêt était d'augmenter ses rendements, son intérêt était de faire ce que Michel de Batisse appela en son temps une révolution silencieuse, même si cette productivité dégageait des travailleurs qui trouvaient à ce moment-là, et ça, n'oublions pas que avoir une révolution agricole, s'il n'y a pas en même temps développement économique, c'est gênant, parce que la révolution agricole, elle améliore le rendement, elle améliore la productivité, donc elle dégage des bras, et ces bras, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les accueille dans les villes. C'est ce qui s'était passé en Angleterre, où la révolution agricole est antérieure à la révolution industrielle, c'est ce qui se passe en Europe pendant les Trente Glorieuses, c'est le problème que nous avons dans tous ces pays. Parce que pour faire une bonne politique agricole, c'est très simple, il faut de bons prix. Alors comment faites-vous de bons prix ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les paie. J'ai l'impression toujours de me répéter, finalement, qui va payer les bons prix ? Il y a deux individus qui peuvent les payer, et sur le modèle des deux grandes politiques agricoles qui ont réussi. La plus vieille, la politique américaine, États-Unis 1933, relisez les raisins de la colère. Que fait le gouvernement américain ? On est quand même aux États-Unis, on ne supprime pas les marchés, on ne ferme pas Chicago, on met en place des aides directes. Et ces aides directes, elles sont payées par le seul qui peut payer, c'est-à-dire le contribuable et le budget fédéral. Malheureusement, dans la plupart de ces pays, il n'y a pas de budget parce qu'il n'y a pas de contribuable. La deuxième politique, c'est la nôtre en 58. Nous, on va s'aligner sur les prix à l'époque les plus élevés, des agriculteurs les mieux défendus, qui étaient des agriculteurs allemands. Et donc, on a mis en place une politique qui a largement été payée par les consommateurs, par le biais de prix élevés. Et là, je retombe sur ce que disait Bruno Parmentier, le problème, comment faites-vous dans un pays du tiers-monde, où ce ne sont pas les campagnes qui font les révolutions, ce sont les villes. Or, il est clair que dans la plupart de ces pays, dont la stabilité démocratique est quand même en général relativement aléatoire, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est d'augmenter les prix alimentaires. Lorsque la Banque mondiale avait demandé, quand même, on tire sur la Banque mondiale, mais à certains moments, elle avait dit, non, il faut augmenter les prix alimentaires. Bah, ça a provoqué des émeutes. Donc, tout le monde a reculé. Puis c'était tellement facile d'importer les marchés mondiaux. Puis à l'époque, il faut se souvenir que les gentils Européens, les gentils Américains faisaient assaut d'aide alimentaire. Il fallait qu'on largue nos surplus. Donc nous avons notre responsabilité. Et la PAC a une petite responsabilité là-dedans, puisque nous avons fait quand même indirectement du dumping sur les marchés mondiaux. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la solution, on la connaît. C'est la mise en place de véritables politiques agricoles, passant par la garantie des prix, passant par l'isolement vis-à-vis du marché mondial. Et ça, l'OMC, et parce qu'elle l'a mis en éclair, l'OMC ne s'y oppose pas. Bon, il y a un petit problème, est-ce que les droits peuvent être fixes ou variables? Mais je pense même que sur des pays qui, pour la plupart, sont des pays les moins avancés, ceci ne poserait à peu près rigoureusement aucun problème. Le problème, c'est un problème de sous. C'est un problème d'argent. C'est-à-dire que ces pays sont confrontés à tant de problèmes que mettre en place une politique agricole, et en plus, c'est complexe. Vous imaginez ce que ça représente en termes d'infrastructures. Alors, bien souvent, dans quelques pays, ils en avaient hérité. Il y avait dans la plupart des pays d'Afrique francophone, ceux d'entre vous qui y ont travaillé se souviennent qu'il y avait des offices des céréales, etc. Alors, c'est vrai qu'ils n'étaient pas souvent des monstres d'efficacité, et que bien souvent, sur les programmes d'ajustement structurel, la première chose qu'ont fait les équipes de la banque et du fonds, ça a été de torpiller les offices, les marketing boards, les caisses de stabilisation, etc. Alors, il faut tout recréer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nombre de pays n'ont pas les infrastructures administratives, les niveaux de gouvernance leur permettant de remettre en place des politiques agricoles. J'en veux pour preuve une chose. Quel est le pays? Bruno Parmentier a dit que c'était là, et il a raison d'après vos statistiques, que c'est le coin où il y a le plus de gens qui souffrent de pauvreté alimentaire. C'est l'Inde. Il n'y a pas eu d'émeute alimentaire en Inde. La politique agricole indienne, elle est relativement efficiente. Il y a des systèmes de prix garantis. Bon, ils n'ont pas résolu leur problème de pauvreté, mais ils sont presque en situation d'autosuffisance alimentaire. On voit bien que les deux problèmes ne sont pas forcément liés. Le problème agricole, le problème de la pauvreté et de la faim. Mais dans les pays auxquels nous pensons le plus, et ceux sur lesquels vous avez basé votre étude, moi j'étais au Burkina le week-end dernier, on voit très bien quand même que ces pays n'ont pas aujourd'hui les moyens matériels d'entretenir des politiques agricoles dignes de ce nom. Et je crois que c'est là que, si nous voulons faire quelque chose au niveau de l'aide internationale, si nous voulons apporter quelque chose, ben oui, ce sont des contributions et c'est de l'argent pour financer de vraies politiques agricoles au niveau des États.
Merci.